Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous voilà embarqués ensemble jusqu'à 14h pour écouter le monde changer. Et en ce moment, écoutez surtout le monde se protéger du Covid-19, cette pneumonie virale qui fait peur où qu'on soit. Chacun s'organise comme il peut, communique ou pas, et s'inquiète souvent. On va entendre comment ça se passe dans des pays très différents, comme le Japon et l'Afghanistan, la Russie et la Côte d'Ivoire, qui fait partie de ces pays d'Afrique qui avaient dû se prémunir de la fièvre Ebola il y a quelques années. On ira aussi en Californie, nos correspondants sont au bout des lignes. On observera l'Iran aussi, une semaine après les élections qui ont fait la part belle aux conservateurs. Vous entendrez notamment le témoignage d'une Iranienne qui a dû fuir son pays, l'une de ces femmes qui militait publiquement contre le port du voile obligatoire. Chaparak Shajarizadeh est venue nous rendre visite à Europe 1. Et puis demain, c'est jour de vote en Israël. À nouveau, pour la troisième fois en 10 mois, les Israéliens vont-ils réélire Benjamin Netanyahou, mis en cause dans 3 affaires de corruption ? Reportage à suivre et décryptage avec le spécialiste du Moyen-Orient Jean-Paul Chagnolo. Nicolas Caro joue l'apaisement avec un petit roman japonais qui nous emmène à la pêche. Et Joseph Jovanec s'interroge sur cette étrange peur des autres qui nous saisit parfois quand un virus se promène. Les carnets sont ouverts. Première destination, Tokyo.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il se propage, le coronavirus, et chacun prend ses précautions. On parle beaucoup de la France et de nos voisins italiens, c'est bien normal. De la Chine, bien sûr. Et dans les carnets, on va se promener nos oreilles dans d'autres pays pour voir comment on évalue le risque sanitaire. Première destination, peut-être le pays le plus hygiéniste du monde, c'est le Japon. À Tokyo, on retrouve Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
Chez vous, plus de 200 personnes ont contracté le virus, en plus des 700 passagers et membres d'équipage qui avaient été contaminés à bord du navire de croisière Diamond Princess, on s'en souvient. On déplore une bonne dizaine de morts. Et d'abord Bernard, il faut préciser que pour le Japon, c'est vraiment une crise sanitaire compliquée à gérer.
Oui, parce qu'ici, 28% de la population a 65 ans ou plus. C'est un record mondial. Or, on sait que ce virus est particulièrement dangereux pour les seniors, a fortiori s'ils sont de santé fragile. En plus, 60% des Japonais habitent dans les 3 plus grandes villes du pays. Et elles sont si peuplées qu'il est absolument impossible d'y appliquer certaines des consignes de prudence que le gouvernement a données. Éviter de se retrouver dans des foules, par exemple. Tokyo, c'est impossible. Les autorités suggèrent aussi de respecter une distance de sécurité entre les personnes, de ne pas s'approcher à moins d'un mètre de quelqu'un. 1,50 m, ce serait même mieux, d'après les experts. Mais c'est illusoire. Dans les trains et les gares, par exemple, ici, on est à touche-touche aux heures de pointe.
Ouais. Et vous pouvez en témoigner, vous êtes allé tendre le micro à ceux qui allaient justement prendre leur train.
Voilà, et ils sont très inquiets. Écoutez ces voyageurs devant la gare de Shinjuku qui voient passer 3,5 millions d'usagers par jour.
Chaque fois que je prends le train, j'ai vraiment la boule au ventre.
Moi, en ce moment, j'essaie d'éviter au maximum les gares et de prendre le taxi. C'est plus prudent.
Ces gares bondées, ces trains pleins à craquer, c'est effrayant dans ce contexte d'épidémie parce que ça favorise évidemment les contagions. En plus, beaucoup de gens ne portent pas de masque vu qu'on les trouve difficilement. Bref, tout ça me dit rien qui vaille.
On l'entend, l'inquiétude des Japonais est décuplée par une pénurie de masques en ce moment au Japon, n'est-ce pas ?
Voilà, depuis début février. Or, même en temps normal, en dehors des périodes d'épidémie, les Japonais utilisent énormément de masques. Tenez-vous bien, 5 milliards par an. Mais là, il est vraiment rare d'en trouver dans les commerces.
Du coup, comment les Japonais font-ils pour se protéger ?
Eh bien, d'abord, ils limitent leurs déplacements. D'ailleurs, la fréquentation des TGV a chuté. Et puis, les Japonais se désinfectent les mains à longueur de journée, jusqu'à 15 fois par jour, selon des études. Ces gels étant très agressifs pour la peau, certains finissent par avoir des plaies aux mains. Et ça, c'est potentiellement une porte d'entrée pour les virus. Et comme il y a aussi une pénurie de gels désinfectants, les gens se tournent vers des substituts qui sont parfois plus proches du décapant. L'éthanol pur, par exemple, qui est une catastrophe pour la peau. Voire le méthanol, qui est un produit très toxique. Les autorités sanitaires viennent de lancer une mise en garde à ce sujet.
Partout on désinfecte, c'est l'obsession.
Oui, beaucoup de magasins ou de bureaux de poste demandent aussi à leurs clients dès l'entrée de se laver les mains avec du gel. Les écoles également désinfectent leurs locaux. Écoutez, ces deux collégiens, 2 fois par jour, à la récréation de midi puis en fin d'après-midi, ils passent tout au gel dans leur salle de classe. Les pupitres, les chaises, les poignées de portes et de fenêtres, etc. Et ils trouvent ça très bien.
C'est indispensable pour éviter que le virus s'attaque à notre école.
Sans précaution comme celle-là, sûr que ce virus flippant finira par nous atteindre, nous aussi.
D'ailleurs, le gouvernement japonais a décidé jeudi que les écoles publiques fermeraient carrément à partir de demain et pendant 15 jours. Hein.
Oui, et sans doute que les Japonais trouveront ça très prudent. Dans les sondages, 85% se déclarent inquiets, voire très inquiets.
Merci Bernard pour ce coup de projecteur sur le Japon. À très bientôt.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
D'autres pays sont désignés depuis le début de l'épidémie comme bien plus vulnérables. Certains experts ont notamment dit leur inquiétude pour le continent africain, très lié économiquement à la Chine. C'est en Côte d'Ivoire qu'on retrouve maintenant Christelle Pierre. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Finalement, à ce jour, il y a très peu de cas recensés en Afrique. Un au Nigeria il y a quelques jours, un Italien revenant de Milan. Et chez vous, à Abidjan, Christelle, vous constatez qu'on s'organise.
Oui, surtout à l'aéroport où l'on a renforcé le dispositif mis en place pour Ebola. Souvenez-vous, c'était en 2014. La Guinée, la Sierra Leone et le Liberia avaient dû faire face à ce virus qui a fait plus de 10 000 morts. Et à cette époque, la Côte d'Ivoire, pays voisin, avait instauré des mesures préventives, notamment à l'aéroport d'Abidjan, avec par exemple le contrôle de la température des passagers par caméra thermique. Alors, avec l'épidémie du coronavirus, forcément, le nombre d'agents de santé à l'aéroport a été doublé. Et puis désormais, c'est gel hydroalcoolique obligatoire pour tout le monde. Et si un cas suspect se présente, il est mis en quarantaine dans une petite maison à l'extérieur de l'aéroport. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé fin janvier avec une étudiante ivoirienne qui revenait de Wuhan en Chine. Les autorités n'ont voulu prendre aucun risque. Les analyses ont été faites à Abidjan et à Paris pour être bien sûr. Et elles se sont révélées négatives.
Alors justement, comme d'autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire a des ressortissants bloqués en Chine.
Oui, ils sont un peu plus de 80 à Wuhan, surtout des étudiants. Et pour eux, c'est assez compliqué. Hein. Le gouvernement ivoirien ne veut pas les rapatrier de peur de créer une contagion ici en Côte d'Ivoire. Et ça fait donc plus d'un mois qu'ils sont en quarantaine, confinés chez eux. Les autorités leur ont envoyé l'équivalent de 500 euros par personne pour les aider. Écoutez, Dominique Kadi, c'est la représentante des étudiants ivoiriens à Wuhan.
L'argent que l'État a fourni, vraiment, ce n'est pas suffisant. Les choses ont vraiment, vraiment augmenté. Triplé vraiment. Il y a certains qui sont obligés de qui mangent une fois par jour. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de subir. Vraiment, c'est compliqué parce qu'ils ne peuvent pas aussi recevoir d'argent venant de leurs parents. Vu que tout est fermé, les banques sont fermées et tout. Il y a beaucoup qui dépriment par rapport à cette situation. Confinés dans une maison pendant un mois, plus d'un mois, c'est vraiment difficile. On fait nos coups en ligne, mais en dehors de ça, bon, nous sommes là comme ça. Nous sortons pour aller prendre uniquement que la nourriture et on commande ça en ligne. Les Chinois ont une plateforme qu'on appelle WeChat et c'est sur cette plateforme-là que des groupes ont été constitués, c'est-à-dire par quartier ou par immeuble. Dans ce groupe, tu commandes juste ce que tu veux et il y a des gens qui viennent livrer juste en dessous de ton immeuble. Et c'est là que tu récupères ton colis. On sort plus.
Voilà, Dominique, ça fait plus d'un mois qu'elle est confinée chez elle avec ses trois sœurs à Wuhan. Ouais. Et pour l'instant, elle ne sait toujours pas jusqu'à quand cette situation va durer.
Ouais, difficile. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
On quitte l'Afrique pour un autre pays sans doute très vulnérable. Il s'agit de l'Afghanistan. Bonjour Margot Ben.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes à Kaboul. L'Afghanistan est frontalier de l'Iran, deuxième foyer de contagion du coronavirus. Même le vice-ministre de la Santé envoyé à la télévision pour rassurer les Iraniens a finalement reconnu qu'il était positif. Et c'est aussi un gros problème pour le voisin afghan donc.
Oui, c'est un vrai problème cette contamination en Iran, d'autant que beaucoup soupçonnent le gouvernement iranien de volontairement sous-estimer le nombre de cas dans ce pays. Or, l'Iran est un véritable carrefour régional. De très nombreux Afghans s'y sont installés, y ont de la famille ou s'y rendent pour les vacances ou des pèlerinages. Et il existe aussi de très nombreux passages beaucoup moins officiels entre ces deux pays. Les frontières sont extrêmement poreuses et chaque jour, au moins 3000 personnes transiteraient illégalement par la frontière Iran-Afghanistan.
Ouais.
Donc, même si tous les vols entre l'Iran et l'Afghanistan ont été annulés, et même si le gouvernement afghan a officiellement fermé sa frontière avec l'Iran, il existe de vastes no man's land impossibles à contrôler et par où circule une multitude de gens dont on ne connaît pas l'état de santé.
Il y a eu des cas détectés déjà en Afghanistan, Margot ?
Oui, une personne au moins, un voyageur qui justement venait de rentrer d'Iran, et on soupçonne au moins une quinzaine d'autres cas dans quatre autres provinces du pays, y compris la capitale, Kaboul. Mais on ne connaît sans doute pas la réalité, car encore une fois, des milliers de personnes arrivent chaque jour d'Iran sans être contrôlées par les autorités.
On sait que l'Afghanistan est un pays pauvre et en guerre. En cas de coronavirus, ce serait compliqué de faire face, on l'imagine.
Ce serait même impossible. C'est un pays en guerre, où de nombreux territoires ne sont même pas contrôlés par le gouvernement, des zones où il n'y a même pas de centre de santé, et la proximité physique entre les gens est souvent inévitable, particulièrement dans les grandes villes surpeuplées comme Kaboul. Alors des campagnes de prévention sont actuellement diffusées à la télévision, à la radio, mais selon l'ONU, 57% de la population est analphabète et les messages de prévention risquent de ne pas atteindre une grande partie des Afghans.
Et dans quel état est le système de santé, Margot ?
Alors, il n'existe qu'un seul laboratoire dans le pays à même d'effectuer des tests de positivité au virus. C'est dérisoire pour un pays d'au moins 35 millions d'habitants et où le virus pourrait se propager extrêmement rapidement. Et puis le système de santé, donc, comme je le disais, est extrêmement défaillant. Il existe bien une poignée d'hôpitaux privés à Kaboul qui ont d'ailleurs commencé à augmenter le nombre de lits pour accueillir d'éventuels patients. Mais la plupart des hôpitaux manquent de moyens, de médicaments et même souvent de personnel qualifié. Ils sont d'ailleurs souvent dédiés au traitement des blessures de guerre et seraient totalement démunis en cas d'épidémie. Ouais. Et puis de toute façon, beaucoup d'Afghans sont trop pauvres pour accéder aux soins et ils ne pensent même pas aller à l'hôpital. Et d'ailleurs, le prix des masques chirurgicaux en magasin a déjà été multiplié par 10.
Ah là là, sombre tableau, effectivement, en cas de propagation du virus. Merci beaucoup, Margot.
Merci.
Prenez soin de vous et puis à bientôt.
À bientôt.
Et nous voilà en Russie. La Russie qui compte officiellement quelques cas de coronavirus, mais les autorités prennent des mesures radicales. Elles viennent de suspendre les visas pour les Iraniens. Et à de rares exceptions près, on ne peut plus arriver en Russie par avion d'Iran ni de Corée du Sud. Et déjà, la Russie avait fermé ses frontières avec la Chine, suspendu les visas pour les Chinois, mais des vols en provenance de Chine arrivent chaque jour à l'aéroport de Moscou. Allez comprendre. Bonjour Elena Voloshin.
Bonjour Sophie.
C'est de la paranoïa ou c'est de la poudre aux yeux ?
Bien, c'est un peu des deux. La Russie a effectivement suspendu la délivrance de visas aux Chinois, mais seulement il s'agit de certaines catégories de visas. Par exemple, les Chinois qui ont des visas d'affaires ou diplomatiques, eux, peuvent continuer de venir en Russie, et ce, en prenant tout simplement l'un des vols directs quotidiens qui atterrissent à Moscou. Résultat, vous avez des Chinois résidant en Russie coincés pour on ne sait quelle raison à Londres ou au Zimbabwe, pendant que d'autres atterrissent tranquillement en venant de Chine.
Ça veut dire qu'on fait plutôt la chasse aux Chinois et pas tant au virus.
Exactement, et les mesures absurdes, un peu discriminatoires ne s'arrêtent pas là. À Moscou, la police semble avoir pour ordre de contrôler au faciès tous ceux suspectés d'être des Chinois. On a interrogé un groupe d'étudiants. Le premier garçon que vous allez entendre, Xian Ayu, a été arrêté alors qu'il roulait en taxi.
La police m'a arrêté et a contrôlé mes documents seulement parce que j'ai un visage asiatique. J'étais très inquiet, j'avais très peur. Nous, les étudiants chinois qui nous trouvons en Russie, à Moscou, on n'est pas dangereux. Les Chinois, on n'est pas un virus.
En ce moment, pour les étudiants, c'est très difficile. Ils ne peuvent pas revenir pour suivre leur cours ici. Particulièrement ceux qui doivent passer leurs examens de fin d'études. C'est très dur pour eux.
Voilà, on entend ces deux étudiants chinois à Moscou. En parallèle, Elena, est-ce qu'il y a des mesures de prévention sanitaire qui sont prises dans le pays et efficaces contre le virus ?
Alors le problème, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment, parce que la stratégie des autorités russes, c'est pas de communication, pas de panique. En attendant, les gens qui s'inquiètent de leur état de santé ont du mal à s'orienter. Des journalistes, par exemple, ont essayé d'être pris en charge, comme ça, juste pour tester. Et partout où ils allaient en disant qu'ils pensaient avoir le coronavirus, le personnel médical les regardait avec des grands yeux, sans vraiment comprendre ce qu'on lui voulait. Ouais. Alors à côté de ça, vous avez des situations extrêmes, comme des patients placés de force en quarantaine, alors que tout porte à croire qu'ils sont sains, parce que leurs résultats le sont. Bref, on a comme toujours l'impression que les autorités russes en font à la fois trop et pas assez, et ça, ce n'est pas vraiment rassurant.
Bon, ben, faites attention aussi, vous. Merci beaucoup. Merci, Elena. À bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Étape suivante de notre petit tour du monde derrière le virus. On file dans le petit matin californien où se trouve Aviva Fried. Bonjour, Aviva.
Hello, Sophie.
Alors, on parlait de discrimination à l'instant en Russie. Les potentiels malades font peur chez vous aussi, où une ville du sud de la Californie, Costa Mesa, refuse d'accueillir un centre de quarantaine et va même devant la justice pour s'y opposer.
Oui, alors, Costa Mesa, c'est une ville d'un peu plus de 100 000 habitants, à une heure au sud de Los Angeles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 jours, le conseil municipal a été prévenu que les autorités sanitaires fédérales, c'est-à-dire qui dépendent de Washington, avaient décidé de réquisitionner un complexe pour y héberger immédiatement entre 20 et 50 patients potentiellement porteurs du coronavirus. Alors, bien sûr, branle-bas de combat à la mairie qui mobilise ses avocats et qui réussit à bloquer la décision fédérale.
C'est une réaction radicale en tout cas.
C'est vrai, mais la première chose, c'est quand même que les autorités locales n'ont absolument pas été consultées et n'ont ensuite reçu aucun détail. La mairie ne savait pas qui allait venir, combien de personnes, dans quel état de santé, pour combien de temps, qui allait les surveiller, les soigner. On peut quand même un peu comprendre que cela les ait perturbés. On les sent d'ailleurs bien remonter, même si les autorités de la ville se défendent de rejeter des malades, comme l'explique la maire de Costa Mesa, Katrina Follet.
Nous sommes une communauté pleine de compassion. Mais on ne va pas continuer à être la ville où on vient balancer les crises de tout le monde.
La maire parle de compassion, mais on a l'impression ensuite qu'elle n'en pense pas un mot.
Oui, ce qui est sûr, c'est que dans la ville, on n'a pas vraiment envie de voir de potentiels malades venus d'ailleurs s'installer ici. Il y a eu lundi une audience au tribunal sur la question et des habitants sont venus manifester avec des pancartes bien sympathiques où on pouvait lire « La vie telle que nous la connaissons sera finie » ou encore « N'a-t-on rien appris de Wuhan ?» Ce n'est pas vraiment le comité de bienvenue, donc.
Non, pas vraiment. Mais est-ce qu'ils ont le droit de refuser une décision fédérale sanitaire comme l'installation d'un centre de quarantaine ?
C'est tout le problème. En principe, le gouvernement fédéral peut faire valoir l'intérêt supérieur du pays. Les États-Unis sont en guerre contre le virus. Les mesures appropriées doivent donc être prises. Mais ce qu'on objecte ici, c'est qu'on ne doit pas mettre en péril la santé de la population locale. Deux visions qui s'affrontent et c'est celle de Costa Mesa qui l'emporte. Face à la levée de boucliers, le gouvernement fédéral a fait machine arrière avant-hier en annonçant que finalement, aucun malade ne serait envoyé ici. Ce qui pose le problème, si les villes peuvent refuser l'accueil de personnes potentiellement infectées, où pourront-elles aller ces personnes, notamment les Américains rapatriés de Chine et des différents paquebots de croisière ou ceux de retour d'Italie ? La solution, ce serait des terres qui appartiennent à l'État fédéral. Donc franchement, à part des forêts ou des parcs nationaux, les choix sont plutôt restreints.
Ouais, on est assez loin de la compassion, en tout cas, affichée par la maire de Costa Mesa. Merci beaucoup, Aviva. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
Et on referme avec vous cette grande page consacrée au coronavirus à travers le monde, même si on va en reparler un peu quand même avec l'Iran dans quelques minutes. Mais avant ça, une petite pause littéraire s'impose. Nicolas Caro va nous rejoindre.
Europe 1, les carnets du monde.
13h-14h, le dimanche, sur Europe 1, écoutez le monde changer avec Sophie Larmoyer. Il est 13h20, c'est l'heure d'un livre dans le monde, la chronique littéraire de Nicolas Caro, une autre manière de raconter le monde.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Alors on y était tout à l'heure pour parler virus et désinfection, mais là, dans un tout autre décor, vous nous emmenez au Japon.
Et même mieux, je vous emmène pêcher au Japon avec l'auteur Numata Shinsuke, traduit par les éditions Piquet. Le roman s'appelle « La pêche au toc dans le Tohoku ».
C'est quoi le Tohoku ? C'est la région japonaise ?
Oui, au nord-est, sur l'île principale du Japon, une région montagneuse où l'on trouve des truites que l'on peut pêcher, donc notamment avec la technique du toc, c'est-à-dire utiliser des appâts de l'environnement naturel de la truite. Donc vous arrivez, vous cherchez d'abord, vous récupérez les appâts autour de la rivière et ensuite vous lancez votre ligne, vous faites dériver, l'appât coule et puis ensuite vous espérez que ça morde. Ça, c'est comme pour toutes les pêches.
Bon, c'est un livre sur les techniques de pêche, votre truc ?
Alors non, c'est un roman. Mais la pêche est au cœur du livre. Le narrateur s'appelle... Alors, dans ma petite recherche, je vous le dis quand même, je me suis aperçu que c'était l'origine de la technique du toc, c'est le Béarn.
Donc bah voilà, oui.
ça fait du chemin. Alors, donc, ce n'est pas un livre de technique de pêche, mais c'est un roman. Mais la pêche est au cœur du livre. Le narrateur s'appelle Imano. Il a la trentaine. Il vient de la ville, mais il a été muté dans cette région de rivières et de forêts. Et il se prend de passion pour la pêche, d'autant qu'il pratique cette activité avec un ami. Il y a ça. Au passage, il y a de très belles et très fines descriptions de techniques de pêche, quand même. Ce qui n'est pas du tout évident à écrire. Je vous lis un petit extrait. Tenant sa canne à l'oblique, il a donné un petit coup de poignet. La ligne en nylon possédait suffisamment d'inertie pour traverser le plan d'eau telle une balançoire et venir se poser exactement au bon endroit dans un trou à proximité de l'autre rive. L'eau froide a blanchi quelque peu la rougeur des œufs de saumon avant qu'ils ne disparaissent au fond. Et vous faites très bien le geste, Sophie.
Ça, c'est de la radio, vous ne l'avez pas vu. Il y a des descriptions de la nature aussi, j'imagine.
Absolument, dans un style très impressionniste. Patrick Honoré, le traducteur du livre, nous rappelle que c'est essentiel dans la tradition littéraire japonaise et Numata Shinsuke s'y inscrit complètement.
C'est un auteur qui maîtrise sa langue dans les descriptions de la nature, dans la description des psychologies des personnages. C'est souvent la même chose d'ailleurs, c'est-à-dire que la description des paysages, comme toujours dans la littérature japonaise, on dit plus sur les émotions, les sentiments des personnages qui regardent cette nature ou qui vivent ou qui la contemplent, que de la nature elle-même. Les descriptions de la nature et la relation des personnages avec la nature, c'est un motif essentiel de la littérature japonaise. C'est un auteur qui, à cause de ce jeu avec la nature dans son roman, se situe complètement dans une tradition de littérature japonaise qu'il fait avancer et qu'il, comme d'une certaine façon, avec laquelle il joue, quoi.
Ça me fait penser que c'est bientôt la période des cerisiers en fleurs au Japon. Qui est l'auteur au fait ? Est-ce qu'il est connu au Japon ?
Alors, il ne l'était pas du tout jusqu'à ce livre.
Il avait déjà publié quelques petites nouvelles, mais qui n'avaient pas eu d'écho particulier. Et puis là, avec ce premier roman, il éclate complètement, puisqu'il a eu le prix Akutagawa en 2017. Qui est le prix le plus prestigieux de littérature japonaise. Et donc il l'a eu tout de suite et il en a eu d'autres. Je veux dire, ce livre a eu tellement d'écho qu'il a eu plusieurs prix. Le plus célèbre est celui qu'on peut connaître déjà en France, c'est le prix Akutagawa. Il a surtout été apprécié pour son style.
C'est un roman court en tout cas, Nicolas.
Oui, court, à peine 100 pages, mais qui dit beaucoup. Donc le narrateur Imano adore pêcher les truites avec son copain Yasa, les Yaman surtout, Yamane, plutôt que les truites vandoises qui pullulent, qui sont plus faciles à pêcher. Mais Yasa disparaît et il réapparaît et il revient et finalement disparaît dans le tsunami qui a touché la région en 2011. Or, cette histoire d'amitié était peut-être aussi une histoire d'amour. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais ce qui compte, c'est pas tellement justement l'intrigue, c'est plus la poétique de la pêche, la nature, la solitude, les gestes, les descriptions. On pense parfois aux grands romans de pêche dans le Montana, vous savez, et au milieu coule une rivière, etc. Mais c'est autre chose, c'est moins direct, plus évanescent comme style et comme tableau, plus suggestif, mais c'est très beau.
Parole de pêcheur à la mouche.
Voilà.
Voilà, voilà.
Et pas au toc.
La pêche au toc dans le Tohoku, donc de Numata Shinsuke. Merci beaucoup, Nicolas. Et à tout à l'heure pour plein de nouvelles découvertes littéraires.
Tout à l'heure.
Europe 1, les carnets du monde.
13h25, fin de la parenthèse littéraire. Nous allons maintenant replonger dans ce qui fait l'actualité en ce moment. Et c'est en Iran que vous nous emmenez, Sophie Larmoyer.
L'Iran, deuxième foyer de contamination du coronavirus où il est apparu subitement en milieu de semaine dernière. On est en ligne avec Jean-Sébastien Soldaini, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et c'est pour couvrir les élections législatives que vous étiez à Téhéran à ce moment-là, on va en parler. Mais d'abord quelques mots de cette irruption du Covid-19. Vous avez clairement et brusquement vu les comportements changer.
Oui, ça a été flagrant parce qu'en quelques heures, les visages se sont couverts de masques de protection. C'était dans la rue, dans le métro, dans le bus. Et le plus surprenant, c'était dans le hall de mon hôtel. À mon retour le jeudi soir, le réceptionniste m'a interpellé pour me tendre deux de ses masques. Des affichettes étaient en train d'être placardées au-dessus de flacons de solution hydroalcoolique qui étaient en libre service. Et en quelques heures, ils avaient même mis en place une procédure spéciale pour le petit déjeuner. Plus de buffet, m'explique le gérant. Pour ne plus toucher aux aliments, il faudra passer commande en cochant des cases sur un menu. Les serveurs apporteront ensuite cela sur un plateau. Avec une petite faille tout de même, tout le monde se repassait le même stylo.
Pour cocher les cases, effectivement. Et jeudi, donc, c'était la veille du scrutin législatif. Il y avait du monde dans les bureaux de vote. Ça n'a pas dû encourager les gens à aller voter, hein ?
En tout cas, à Téhéran, les Iraniens ont peu voté. Beaucoup avaient choisi de boycotter ces élections car ils ne les considéraient pas comme équitables. Mais certains se sont rendus aux urnes, masqués, là encore pas tous. Et ce qui est à noter, c'est l'utilisation politique de cette épidémie par les autorités. Elles ont accusé la presse étrangère de faire de la propagande. L'ayatollah Khamenei considérait même que le virus avait été utilisé pour décourager les Iraniens de voter. C'est comme cela qu'il justifiait en partie le très faible taux de participation, c'était 42%. Mais 24 heures plus tard, les autorités annonçaient de façon très officielle 12 morts et 47 personnes infectées par le coronavirus.
Voilà un bilan qui n'a cessé de grimper depuis. Alors, en dehors de ce contexte d'épidémie, ces législatives en Iran se sont tenues dans un contexte de très forte tension entre Téhéran et Washington. On se souvient de la frappe américaine qui a tué le général iranien Soleimani, puis de cet avion de ligne ukrainien abattu par erreur par un missile iranien. En novembre, des manifestations contre la vie chère avaient été violemment réprimées dans le sang. L'une des conséquences, eh bien, c'est une chute brutale du tourisme. Vous vous êtes rendu à Ispahan, Jean-Sébastien, joyau historique du pays, pour le constater. On écoute votre reportage.
Les calèches de la place royale circulent sur des allées désespérément vides et la voix du muezzin trouve comme un écho sur les carreaux de céramique qui recouvrent certains murs. Cette place, c'est le terrain de jeu habituellement bien rempli de Mehdi, un guide touristique. Il a vu la fréquentation chuter brusquement début janvier.
Le coup final, c'était ces histoires de, en fait, l'assassinat de commandant d'armée iranien par les Américains et malheureusement les événements qui se sont poursuivis en fait et en fait. Surtout l'avion qui était écrasé, en fait, ça a beaucoup touché le secteur touristique. Et donc, vraiment, il y a eu beaucoup d'annulations suite à cet événement.
Des annulations en cascade en seulement quelques heures. Au fond de sa boutique ornée de cuivre et de bibelots turquoise, Hossein constate lui aussi les dégâts.
Le business en a pris un sacré coup. Parce qu'ici, nous avions des touristes américains, français, italiens. Les seuls qui viennent désormais, ce sont les Iraniens. Ils n'achètent pas beaucoup de souvenirs. Si les étrangers ne viennent pas, nous ne vendons rien. Il y a peu de temps, nous avions encore quelques Chinois. Mais à cause du coronavirus, ils ne viennent plus.
Le souci est que l'économie locale est déjà exsangue depuis le retour des sanctions. Seul le tourisme permettait au pays de faire entrer quelques devises étrangères pour compenser l'inflation du rial. Ibrahim Pourfarage est le patron des tour opérateurs indépendants. Il se désole, l'Iran n'avait pas besoin de ces tensions à répétition.
Après que les Américains sont sortis de l'accord sur le nucléaire, la fréquentation a baissé de 25%. Ensuite, c'est resté stable, un peu remonté même. Et puis, il y a eu ces événements de novembre, les manifestations. Là, nous avons encore perdu 50% de touristes. L'industrie du tourisme a été touchée, blessée même, par les relations entre l'Iran et les États-Unis. Mais les récents événements ont empiré les choses. Et le déclin est très important.
À l'autre bout d'Ispahan, c'est l'un des plus beaux palaces de la ville qui sonne creux. Nasser, le responsable des relations publiques, s'installe dans l'un des confortables canapés du somptueux hall d'entrée. Il joue la sérénité mais reconnaît que le prix des chambres a été divisé par deux en deux ans. Difficile à assumer, mais il tente d'en faire un argument commercial.
Les touristes sont attachés à une chose essentielle, c'est la sécurité. La stabilité aussi. Quand ils se rendront compte que c'est un pays sûr, ils reviendront en Iran. L'autre facteur important, c'est que l'Iran est l'une des destinations les moins chères. Le prix va vite les ramener. Ils vont avoir moins de réticence pour venir.
En plus des prix, chacun met en avant le même argument. Les Européens et les Russes ont une grande civilisation. Ils ne peuvent pas tourner le dos à la richesse du patrimoine iranien. Sans surprise, les Américains, pourtant fortunés, ne seraient pas suffisamment raffinés pour apprécier la culture perse. Ispahan, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Voilà, reportage à Ispahan. Dans un tel contexte, ces professionnels du tourisme ont boudé eux aussi les élections législatives, comme beaucoup d'Iraniens d'ailleurs. On est toujours en ligne avec vous, Jean-Sébastien. Nous voilà une semaine après le vote et les conservateurs sont annoncés largement vainqueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette victoire ?
Bien, dans un premier temps, quand le Parlement va entrer en fonction, vous allez vous retrouver avec un président modéré, Hassan Rouhani, qui va être pris en tenaille entre le guide suprême ultra-conservateur et des députés, eux aussi tenant de cette ligne dure. Donc le Parlement va probablement tout faire pour affaiblir Hassan Rouhani, faire peser sur lui tous les malheurs de l'Iran. Ils vont aussi lui faire payer l'accord sur le nucléaire, aujourd'hui inopérant, moribond. Donc le camp modéré et réformateur va arriver très affaibli à la présidentielle de 2021. Et ça pourra ouvrir un boulevard pour le candidat conservateur.
Et à plus long terme, dans un deuxième temps ?
L'hypothèse à plus long terme, c'est pour préparer l'avenir. L'ayatollah Khamenei a bientôt 81 ans et il faut penser à sa succession. Le souci, c'est que son successeur n'aura pas son aura, son charisme, encore moins celle de Khomeini. Donc s'il y a à ses côtés un président largement élu avec une certaine légitimité populaire, il pourra accompagner la prise de fonction du nouveau guide suprême, le mettre sur les rails en quelque sorte. Et ainsi, ça permettra d'assurer la survie du régime des Mollahs pendant encore quelques années.
Merci beaucoup Jean-Sébastien pour ce décryptage et je vous propose maintenant d'écouter un témoignage, celui d'une Iranienne qui a quitté son pays il y a un peu moins de 2 ans après avoir été arrêtée plusieurs fois pour avoir ôté son voile. Shaparak Shajarizadeh fait partie de ces militantes qui ont brandi leur foulard au bout d'un bâton en public et qui réclament le droit à la liberté. Elle vit en exil au Canada et était de passage en France. Cette semaine, elle est venue nous raconter à Europe 1 le combat des femmes en Iran face au régime islamique et conservateur. Écoutez.
Je me souviens de mon premier jour d'école. J'avais 6 ans. C'est le premier jour où ma mère m'a dit « À partir de maintenant, pour aller à l'école, tu devras porter un foulard. » Et depuis des années, on attend que les militantes des droits des femmes fassent quelque chose. On était très émancipées avant la révolution islamique. On avait les mêmes droits que vous dans les pays européens. Et même, les Iraniennes ont le droit de vote avant les Suissesses.
C'est vrai. Pourquoi avez-vous décidé, vous, à un moment donné, en 2017, de rentrer dans cette bataille-là?
J'en avais assez d'attendre que d'autres récupèrent mes droits. Et en mai 2017, une journaliste en exil, Massi, a lancé une campagne demandant aux femmes et aux hommes en Iran d'agir et de s'habiller en blanc ou d'enlever leur voile chaque mercredi pour protester contre l'obligation de porter le voile. Et là, je me suis dit, voilà, je peux faire entendre ma voix à travers les réseaux sociaux.
Est-ce que vous avez eu peur la première fois que vous avez enlevé votre voile? Comment ça s'est passé? Comment les gens réagissent autour de vous?
Me tenir là, debout en public, avec mon voile au bout d'un bâton, oui, c'était effrayant. Certains passants me félicitaient. D'autres pas. Mais ça m'était égal. J'avais enfin une voix. Et dans ces moments-là, je pensais à toutes ces femmes en Europe ou en Amérique du Nord, il y a des siècles, qui ont été assez courageuses pour protester. Et elles ont payé le prix fort pour que vous, les femmes à l'Ouest, puissiez jouir de votre liberté et de l'égalité. Alors nous, femmes d'Iran et d'autres pays de la région, je crois qu'on sera les secondes suffragettes et qu'on va récupérer nos droits comme vous à l'Ouest.
Vous avez été arrêtée une première fois en février 2018, puis 2 fois par la suite. Votre avocate, c'est Nasrin Sotoudeh, cette célèbre avocate qui a défendu plusieurs femmes qui s'étaient dévoilées en public. Elle aussi a été emprisonnée depuis juin 2018, une manière de la faire taire. Ces femmes qui se découvrent ce geste, comme vous le disiez, pacifique, ça fait très peur au régime.
Oui, en particulier ces longues peines pour les militantes des droits des femmes et nos avocats des droits de l'homme, ça veut dire qu'ils ont très peur de notre mouvement. Et ils font ça pour faire peur aux femmes. Mais ça ne marche pas. Certaines se battent encore depuis la prison, d'autres le font dans la rue en refusant de porter le voile et en résistant pacifiquement. Ou d'autres encore, comme moi, on porte la parole des Iraniennes, on est leur voix.
Je précise que vous avez finalement, après plusieurs arrestations, fui votre pays par la, à pied par la montagne avec votre fils de 11 ans. Vous racontez ça dans votre livre. Les conservateurs ont repris la main en Iran aujourd'hui avec les élections de la semaine dernière. Est-ce que vous considérez que les réformateurs ont réussi à faire quelque chose, quoi que ce soit, qui ait changé la donne, qui fait avancer les droits civiques et les droits des femmes notamment?
Vous savez, ça fait des années que les Iraniens pensent que les soi-disant réformateurs sont juste un autre visage du régime. Ils ont menti aux Iraniens et ils ont déçu le monde.
And if you
see, et si vous regardez la répression sur les femmes ces deux dernières années, la répression sur les militants syndicaux, sur les professeurs, les étudiants, ils ont tué plus de 1000 personnes en 3 jours. Et en ont arrêté plus de 7000 pendant les manifestations de novembre, alors que les gens n'étaient même pas armés. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Que se serait-il passé si les fondamentalistes avaient été au pouvoir ? Exactement la même chose. Donc il n'y a pas de réformateur qui vaille. Et si vous regardez les résultats des élections, vous voyez que les gens ne sont pas allés voter. Ce gouvernement n'est pas légitime.
Alors vous évoquez la participation très très basse des élections, historiquement basse. Ça révèle cette crise de confiance que vous évoquez entre le peuple et le régime. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Comment vous voyez les choses, vous ?
Depuis quelques années, vous l'avez vu, les Iraniens se lèvent. Avant, on avait peur, mais maintenant, les gens en ont assez de la corruption dans le gouvernement et de ne pas avoir de liberté. Pas de liberté de parole, pas de liberté de choix. À cause de la pauvreté, beaucoup de gens se soulèvent. Mais en même temps, on a besoin de l'aide extérieure. À partir de maintenant, et après 40 ans, les politiciens, les défenseurs des droits de l'homme et les Nations Unies, tout le monde doit négocier avec le peuple iranien et l'écouter, et pas ce régime dictatorial d'Iran.
Dictatorship, régime of Iran.
Shaparak Shajarizadeh, suffragette iranienne donc, qui était accompagnée de la journaliste canadienne Rima El-Khoury, avec qui elle a écrit un livre témoignage qui vient de sortir, publié chez Plon, « La liberté n'est pas un crime ». Dans un instant, c'est en Israël qu'on sera. On vote là-bas aussi, pour la 3e fois en moins d'un an.
Europe 1, les carnets du monde.
Des reportages long format et des invités passionnants jusqu'à 14h. On écoute le monde changer avec les correspondants et les reporters d'Europe 1 et avec vous, Sophie Larmoyer. Il est maintenant 13h40, on prend la direction d'Israël où les électeurs voteront demain pour désigner les membres de la Knesset, le Parlement israélien.
Ce sont les 3e législatives en moins d'un an en Israël. En avril et septembre dernier, aucun des deux principaux candidats au poste de Premier ministre n'avait réussi à former de coalition. Il s'agit du chef du gouvernement actuel et sortant, Benjamin Netanyahou, et de son rival, l'ex-chef d'état-major Benny Gantz. Et ce 3e round ne devrait pas y changer grand-chose. Une seule chose est sûre, à l'issue du scrutin de demain, le prochain Premier ministre ne sera pas de gauche. Les travaillistes, la force politique qui a gouverné sans partage pendant les 25 premières années de l'histoire du pays, sont aujourd'hui complètement laminés. Entre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz, la campagne s'est surtout résumée à une course à droite. Reportage de Clotilde Mravko à Jérusalem, à Tel Aviv et à Jaljoulia dans le centre du pays.
À l'entrée de Jérusalem, devant le palais des congrès, quelques centaines de militants ont bravé la pluie et patientent sous un préau. Aucune affiche n'annonce le meeting, mais tous, à l'instar d'Estelle Benichou, 80 ans, savent très bien pourquoi ils sont là.
Pour soutenir Bibi Netanyahou, pour lui dire que nous sommes de tout cœur avec lui, franchement, et qu'on voudrait bien qu'il réussisse à passer aux élections.
Bibi, le surnom de Benjamin Netanyahou, Premier ministre depuis 2009, 14 ans au pouvoir au total, et pourtant, malgré ses 3 mises en examen pour corruption, malgré son échec à former une coalition, son parti, le Likoud, caracole aujourd'hui en tête des sondages.
Vous y croyez, vous ? Vous pensez qu'il va gagner ?
Oui, moi j'y crois.
Un peu plus loin dans le hall, un groupe d'hommes kippa et chapeau noir sur la tête prient en attendant le début du meeting. Les religieux, les colons et les nationalistes, voilà le socle de l'électorat de Benjamin Netanyahou qu'il flatte en déplaçant le curseur de la politique israélienne toujours plus à droite. Un discours qui séduit Albert Amanou, 56 ans. Pour ce franco-israélien d'Ashdod, pas question d'accorder un État aux Palestiniens.
Notre livre de vie, c'est la Torah. Et Dieu a confié la terre d'Israël aux Juifs. Si on parle de deux États, d'un partage, ou des choses comme ça, c'est déjà plus en adéquation avec la Torah. Ça voudrait dire que nous, on met en sous-location. Dieu nous a donné la location, il nous a dit interdit de sous-louer.
De guerre à Gaza, accélération de la colonisation, voilà le bilan de 10 années Netanyahou sur la question palestinienne. Et il promet désormais d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée. À la foule acquise à sa cause, le Premier ministre le martèle, son adversaire Benny Gantz et sa liste bleu-blanc est bien trop à gauche.
Bleu-blanc,
c'est comme si comme ça.
Alors que nous, au Likoud, nous défendons la terre d'Israël et les intérêts d'Israël.
À une heure de là, autre candidat, autre ambiance. Ce soir-là, les militants de la liste bleu-blanc font campagne dans les bars branchés de Tel Aviv. Orit Farkash HaKohen espère se faire réélire en tant que députée. Elle distribue les dessous de verre à l'effigie de son parti et reprend des arguments de campagne pas si éloignés de ceux de Netanyahou.
Le parti bleu-blanc est dirigé par 3 anciens généraux de l'armée israélienne. Nous nous préoccupons de la sécurité des citoyens d'Israël.
Car Benny Gantz a lui aussi mené 2 guerres à Gaza en tant que chef de l'armée israélienne. Colonisation, annexion, il prône sensiblement la même politique face aux Palestiniens que l'actuel Premier ministre. Un peu plus loin, look branché et piercing, Yuval, 26 ans, a elle déjà voté 2 fois pour Benny Gantz.
La raison pour laquelle j'ai voté bleu-blanc, c'est que je ne veux pas d'arabe au gouvernement. Je veux des gens comme moi au gouvernement.
Pourtant, à contre-courant, certains Israéliens se mobilisent contre cette course à droite. Ils sont une centaine à être partis de la ville juive de Kfar Saba, dans le centre du pays, direction Jaljoulia, une localité arabe voisine. Dans le cortège, des Juifs et des Arabes ensemble. Un moment de communion rare dans un pays où les communautés ne se mélangent pas. Hila Aloni-Wayon est juive. Elle fait partie de ceux qui animent le mouvement à l'origine de la marche. Standing together, en français, faire bloc ensemble.
Je ne pense pas que les gens soient plus à droite. Ça a toujours été très compliqué d'être un militant de la paix dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est juste que les voix les plus radicales sont désormais légitimées. Je suis là pour dire à mes amis arabes, à tous les habitants de Jaljoulia, que je suis avec eux. Ils sont eux aussi des citoyens de ce pays, exactement comme moi.
Car les premières victimes de ce raidissement à droite, ce sont les Arabes israéliens, comme Moussa Tatar, 25 ans. Ils sont les descendants des Palestiniens qui sont restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948 et représentent environ 20% de la population.
On était à la mosquée, on est venu se joindre à la manifestation.
L'étudiant en électronique dit endurer le racisme au quotidien et contre ça, il ne voit qu'une seule arme.
Il faut qu'on aille voter, nous tous, aux prochaines élections. C'est la façon la plus efficace de pouvoir influencer les choses.
Lui donnera sa voix à la liste unie qui rassemble les députés arabes. Cette coalition est arrivée en 3e position lors des dernières élections. Une opposition qui reste pour le moment symbolique. En Israël aujourd'hui, il est encore inimaginable de voir un jour un arabe israélien siéger au gouvernement. Dans le centre d'Israël, Clotilde Mrafo, Europe 1.
Voilà, et le vote a lieu demain. Plus de 6 millions d'Israéliens choisiront leurs 120 députés, théoriquement pour 4 ans, bien que les élections anticipées soient extrêmement fréquentes en Israël. Bonjour Jean-Paul Chagnolo.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Je voulais qu'on décrypte un peu avec vous le contexte de ce scrutin. La société israélienne a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, seuls les candidats nationalistes semblent pouvoir séduire les Israéliens.
Oui, je crois que dans le très bon reportage que vous venez de passer, il y a quelques phrases clés quoi, et qui résument très bien l'évolution de la société israélienne dans sa grande majorité. Il y a une phrase, quelqu'un a dit « Dieu nous a donné cette terre ». et on ne va pas la sous-louer aux Palestiniens. Il a dit quelque chose comme ça. Et puis, quelqu'un d'autre a dit « je ne veux pas d'Arabes dans le, dans le gouvernement » ou encore « les voix les plus radicales sont légitimées ». Voilà, en trois phrases, on a toute l'évolution du spectre politique qui lui-même est lié évidemment à l'évolution de la société israélienne depuis, disons, 20 ans à peu près. Ouais. Je ferai remonter ça à l'époque de la seconde intifada avec comme premier moment politique important l'élection de Sharon en 2001. Et depuis, les choses sont davantage encore détournées de la gauche. Il n'y en a pratiquement plus pour aller vers la droite la plus extrême.
Où est la gauche israélienne et où sont les enfants d'Oslo ?
Ben, les enfants d'Oslo sont totalement perdus. Je crois que justement, quand je dis que la coupure, c'est l'intifada, la deuxième intifada, c'est-à-dire au moment où Oslo s'est complètement effondré, c'était un naufrage. Et donc la droite et tous les arguments qu'ils avaient utilisés pour d'ailleurs détruire Oslo, eh bien, sont devenus des arguments extrêmement forts aujourd'hui. Ce qui fait que la droite, par exemple, dans les derniers sondages d'aujourd'hui, dans Haaretz, Mais la droite très largement devant, quelle que soit l'issue. Et puis la gauche, c'est là, sans doute, sur 120 sièges, elle est créditée de 9 sièges. Et il faut ajouter, quand je dis la gauche, c'est à la fois le Parti travailliste, le Meretz, et puis un petit parti de centre-gauche qui s'appelle Guécher.
Alors il y a l'Istuni, hein, cet ensemble de partis arabes israéliens qui avaient été en troisième position aux dernières élections. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle ? Et lequel ?
C'est à plusieurs niveaux. Alors, il est sûr qu'ils vont arriver en troisième position encore cette fois-ci. Ils sont crédités de 13-14 sièges, ce qui est beaucoup. Il est probable qu'il y ait une forte mobilisation des Arabes israéliens, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je pense que dans la conjoncture actuelle, après le plan Trump, ils sont très mobilisés. Et donc, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils essaient de se battre pour être reconnus comme des citoyens à part entière. Donc ça, c'est un premier enjeu qui, pour la première fois, n'est pas réalisé, bien entendu, complètement, mais il y a quand même une vraie importance qui est donnée aujourd'hui à cette liste. Et puis deuxième niveau, c'est les éventuelles manœuvres d'après-élection. Il n'est pas exclu complètement, il y a peut-être une chance sur 100, ce qui n'est pas beaucoup, que par exemple cette liste arabe soutienne, sans participer au gouvernement, puisqu'on vient d'évoquer que ce n'est pas possible, soutienne le bloc qui serait le bloc blanc-bleu. En tout cas, ça a été évoqué
pour chasser Netanyahou du pouvoir. C'est ça,
voilà. Donc on a cette configuration. Et puis surtout, cette liste arabe, il faut souligner le fait qu'ils ont maintenant un leader depuis pas mal de temps maintenant, qui est Ayman Odeh. Ouais. Et ça change beaucoup de choses parce que, au fond, c'est assez récent que les Arabes se retrouvent tous ensemble, parce qu'avant, ils y allaient en ordre dispersé. Il y a donc au moins 4 sensibilités historiquement. Et donc là, ils ont réussi à se rassembler. Ils ont conservé l'idée de faire une seule liste, et d'où son importance aujourd'hui.
Le plan Trump que vous évoquiez là, il y a un instant, c'était un cadeau électoral à Benjamin Netanyahou ?
Si c'est un cadeau électoral, sur le long terme, il est très empoisonné, parce que il y a déjà beaucoup de difficultés, beaucoup de heurts, alors qu'il n'est même pas mis en pratique. Mais c'est vrai que le moment où Trump l'a annoncé, c'était pour donner un très sérieux coup de main à Netanyahou, c'est clair. Et d'ailleurs, l'opposition s'y est pas trompée, puisque ils ont dit que c'était pas normal, enfin en tout cas la gauche, parce que Gantz, lui, a été comme neutralisé, puisqu'il a été aussi invité à Washington, on s'en souvient, juste avant. Donc c'est sûr que c'est un soutien à Netanyahou très, très évident, et il s'en sert pendant la campagne.
Il y a un sujet qui a été très présent dans cette campagne, Jean-Paul Chagnolleau, c'est celui des logements. Il n'y a pas eu une semaine qui est passée là dans la campagne sans promesse de nouveaux logements à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie, 2200 par là, 3500 par là, encore jeudi, là, 1800 approuvés par les autorités israéliennes en Cisjordanie. C'est une manière de courtiser l'électorat.
C'est courtiser l'électorat des colons. Ça, c'est une vieille histoire. La différence, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération de ces promesses, une accélération de tous ces programmes. Pourquoi ? Parce que la conjoncture avec Trump aux États-Unis est extrêmement favorable à cette annexion rampante qui pourrait devenir une annexion juridique du point de vue israélien, pas du point de vue international.
Pour l'instant, du point de vue international, toutes ces colonies sont illégales.
Toutes, ça c'est extrêmement clair, il suffit de regarder les résolutions du Conseil de sécurité, elles sont toutes illégales, y compris celles bien entendu qui sont à Jérusalem-Est. Jérusalem-Est est toujours considéré évidemment comme un territoire occupé par les Nations Unies et par la plupart des États du monde, à quelques rares exceptions près, dont maintenant les États-Unis qui prétendent effectivement passer outre à la réalité du droit international, ce qui est évidemment grave à tous égards. Mais voilà, on en est là actuellement. Donc évidemment, ça légitime les colons et leur volonté de s'implanter. implantés partout et de plus en plus, d'où cette densification que vous évoquiez à l'instant.
Benjamin Netanyahou, dans 15 jours, doit faire face à la justice pour 3 affaires de corruption, de malversation et d'abus de confiance. Il joue gros avec cette élection.
Il joue très gros, effectivement. Il a essayé d'abord d'avoir une immunité. Il n'a pas, finalement, il a retiré sa demande parce qu'il savait qu'il n'aurait pas de majorité. Il n'est pas totalement exclu qu'il en ait une cette fois-ci. Si on regarde les sondages, il n'est pas très loin. Il est à 58 sièges sur 120, si on regarde les alliances possibles. Donc il joue encore cette carte, effectivement. Et pour lui, c'est essentiel, puisque s'il réussissait à avoir une majorité, évidemment, ça permettrait d'enterrer ses poursuites judiciaires.
Jean-Paul Chagnolleau, la question palestinienne n'existe plus dans le débat politique israélien ?
Elle n'existe pratiquement plus. Il y a encore, malgré tout, évidemment... il ne faut jamais les oublier, les Arabes israéliens qui se battent sur cette idée, ça c'est très important. La petite liste qui est la liste de gauche, je dis petite en fonction de ses résultats possibles et ceux des années précédentes, eh bien, a vaguement évoqué quand même la question palestinienne, notamment en critiquant un peu l'idée d'annexion et en critiquant un peu le plan Trump, mais d'une manière extrêmement, discrète en quelque sorte. Ils n'ont pas fait un cheval de bataille. Et quant aux deux grosses formations, c'est-à-dire celle de Netanyahou, celle de Gantz, ils sont pratiquement sur la même ligne. Ils sont déjà sur l'idée d'annexion, ce qui est à terme évidemment un contresens historique terrible, parce que ça va avoir des effets pervers multiples que personne ne peut vraiment prévoir aujourd'hui.
Il faut dire qu'en face, à l'autorité palestinienne, il n'y a plus grand monde non plus pour être partenaire.
C'est exact, il n'y a plus de leader. Autant par exemple, j'évoquais le fait qu'il y a Emma Enode maintenant, qui est un leader important chez les Arabes israéliens, malgré toutes les contradictions de cette communauté. Il est clair que du côté palestinien, entre le Hamas et puis le Fatah, entre Hanyeh et Abbas, tout ceci est extrêmement confus. Alors à un moment donné, face au plan Trump, ils ont réussi à avoir une déclaration commune. Ils ont fait semblant de se réunir, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ils restent profondément divisés. Donc c'est vrai, il manque vraiment dramatiquement un leader palestinien aujourd'hui.
Voilà, les élections législatives en Israël, c'est demain. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolleau pour cet éclairage. Je rappelle que vous présidez l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Je vous dis à très bientôt sur Europe 1.
À bientôt, au revoir.
Europe 1, les carnets du monde.
Et comme chaque dimanche, Sophie Larmoyer, on termine par un petit voyage en Autistan avec notre guide personnel, Joseph Chevanec, qui nous a rejoint entre deux voyages. Il est 13h54.
Joseph, c'est le voyageur de l'équipe. Par ailleurs, philosophe et autiste Asperger, il partage avec nous son regard singulier sur le monde chaque dimanche. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors vous avez été frappé par la place que prend ce sujet du coronavirus dans nos conversations.
Oui Sophie, nous sommes dans des temps épidémiques et il nous offre un spectacle saisissant des sociétés qui se pensaient modernes, basculant quelques heures à peine dans des schémas mentaux des siècles reculés, où le sentiment dominant c'est la peur, l'idée que l'autre soit un danger, donc il faille l'éviter.
Ouais, c'est la peur de quelque chose qui ne se voit pas finalement, qu'on ne connaît pas.
Oui, et cette peur du voisin a toujours été latente et dans mes voyages souvent été frappé par la proximité de ce qui fait peur aux gens. Les pays insulaires ou alors côtiers juste en face des plages paradisiaques ont généralement leur île du bagne ou alors ces anciennes îles de quarantaine utilisées jusqu'à récemment, par exemple aux Seychelles, en Nouvelle-Calédonie, Zanzibar ou ailleurs. On voit ces lieux à l'horizon mais on les évite mentalement, comme si leur présence en face de nous nous rassurait sur la chance supposée que l'on a d'être ici et non pas en face. Souvent, on vous racontera une histoire horrible sur je ne sais quelle espèce de serpent dangereux ou de chauve-souris porteuse des maladies les plus épouvantables dont l'île d'en face est infestée.
Et alors, quand on n'a pas d'île, où situer toutes ces peurs ?
Dans les pays montagneux, ce sont souvent les hauts sommets qui font peur. Ouais. Si les touristes s'extasient devant leur beauté, traditionnellement, les sommets sont des lieux à éviter, souvent maudits d'ailleurs, là où vivent les esprits. Le contraste est violent, par exemple au Tibet, entre l'admiration des visiteurs pour les montagnes de cette hauteur irréelle et l'ignorance craintive des autochtones pour ces lieux. Une fois, j'avais demandé à un Tibétain si la tache blanche que je voyais dans les hauteurs était un monastère. Il me regarda comme on regarde un fou et il me dit d'un ton sec, personne n'irait là-haut.
Oui, quand on n'a pas de montagne, alors
Dans les pays désertiques, par exemple en sultanat d'Oman, c'est un peu pareil. Les maisons arabes traditionnelles, par opposition aux maisons dites modernes, sont structurées autour d'une cour intérieure, avec souvent aucune vue sur le paysage désertique environnant, justement ce que j'aime. Et difficile d'expliquer aux vieux en quoi la vue sur les montagnes du désert ne serait pas angoissante, parce que pour eux, c'est l'ailleurs, tout ce que l'on essaye d'éviter. Et que l'on ne croit pas, toutefois, que seuls des pays non occidentaux aient ce type de réaction de peur atavique face aux proches voisins. Une fois, je suivais un cours d'été de langue russe en Estonie avec un prof de russe qui appartenait à la minorité ethnique russe de ce pays. Un jeune homme polyglotte, fin et cultivé, ayant beaucoup voyagé en Europe et ailleurs. Mais quand je lui avais parlé de mes propres voyages, évidemment, il se contenta d'écouter poliment, hochant de la tête. Par contre, quand je lui avais évoqué des séjours en Sibérie profonde, là, il sursauta. Et pendant quelques minutes, il fut très perturbé, parce que pour lui, aller en Sibérie, c'était impensable. Comme d'ailleurs pour l'immense majorité des Russes, qui n'ont jamais mis les pieds dans cette partie-là de leur propre pays et qui sont convaincus que la Sibérie représente une sorte de danger vital.
Mais ça représente quoi, le goulag ?
C'est l'ailleurs, l'inconnu, ce qui fait peur. En Norvège, c'est par exemple toute la moitié nord du pays, schématiquement à partir de Trondheim. C'est la zone infréquentable, celle des mauvais esprits. Aussi, naguère, celle des peuples de langue saami. Et aucun Norvégien, jusqu'à ce jour, qui se considère comme civilisé, n'y mettrait les pieds. C'est l'ailleurs. Alors, faut-il désespérer de l'humanité ? Pas si sûr, Sophie. Le slogan des siècles de peste au Moyen-Âge était « Sitôt longue et tarde », sous-entendu « Pars rapidement, reste en voyage longtemps et revient tard ». Alors, peste ou pas, je suis entièrement d'accord avec cette maxime de vie.
Bon, et revenez-nous toujours quand même, Joseph, à la fin. Je vois venir le prétexte gros comme une maison du voyage permanent.
À très bientôt.
À dimanche prochain, où que vous soyez.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer ces carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Vous savez, le podcast est tout à vous sur europe1.fr si vous voulez réécouter ces reportages. C'est cadeau. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Caroline Baudry qui m'a aidé à la préparer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sans faute. Et je passe le témoin à Nicolas Caro. Nicolas, quel est le programme de La Voix est libre ?
Je reçois Nicolas Richard, le grand traducteur, et il va nous parler de l'écrivain américain Hunter Thompson, vous savez, l'auteur de Las Vegas Parano. Et puis nous visiterons la bibliothèque de l'écrivain François-Henri Désérable. Il y a un revolver dans sa bibliothèque, méfiez-vous. Vous allez voir, vous allez l'entendre.
Merci, à tout de suite Nicolas et à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.